Bienvenue à tous. Les caméras en mouvement avec Sophie Lamine. Vous savez très bien, chers auditeurs, que Sophie Lamine n'est pas une inconnue dans l'espace, en tout cas, comme rien, ou je dirais de la littérature, si j'ose dire. Aujourd'hui, eh bien, il a accepté notre invitation de venir parler de son livre qui est apparu et publié aux éditions de la Lune il y a de cela 3 mois. Ce livre qui parle de la politique ou de l'histoire politique et diplomatique des Comores. Eh bien, en face de moi, Seuf et Lamine, avant de commencer, je vais vous demander, bien évidemment, de commenter l'actualité politique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous savez très bien, puisque vous êtes ministre, vous avez été ministre, et en même temps, vous êtes observateur en termes d'immigration, la France. Et vous observez très bien la scène politique comorienne. Alors, hier, il y a eu un remaniement politique. Ce remaniement politique dit beaucoup de choses de la façon dont notre président, Ahmed Abdallah Sambi, envisage de gouverner, envisage de faire en tout cas quelque chose. Et où est-ce que c'est votre avis?
Effectivement, il y a eu un remaniement ministériel qui est intervenu hier. C'est le troisième gouvernement du président Ahmed Abdallah Sambi depuis qu'il a été investi chef de l'État au mois de mai 2006. Bon, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ce remaniement parce que le chef de l'État, il a le pouvoir d'agir ainsi. Donc libre à lui, comme il est investi chef de l'État, donc libre à lui de remanier comme il veut ses gouvernements.
Oui, mais libre à lui, bien évidemment, de remanier ce gouvernement. Mais est-ce qu'il y a une lecture possible de ce remaniement, hein? Une lecture possible. Quelle lecture peut-on faire sur ce remaniement? Parce que non seulement à la suite des élections d'en juin qu'a eu ce remaniement, en même temps, non seulement il y a eu ce remaniement, en même temps, il y a des nouveautés. La nouveauté, c'est qu'il a rajouté 5 ministres de plus.
Bon, chaque fois qu'il y a un remaniement dans n'importe quel pays, effectivement, il y a des événements qui poussent à remanier un gouvernement. Donc, sur le fond et sur la forme, on peut peut-être ne pas être d'avis. Mais sur le fond, sur la forme, effectivement, les Comores ont été confrontés à 2 problèmes majeurs durant ces derniers temps. D'abord, il y a eu le débarquement, donc l'intervention militaire en juin. Et il y a eu un certain nombre de partis politiques qui ont fédéré autour du président de la République et qui ont signé un pacte pour appuyer les efforts du chef de l'État dans ce sens. Donc, la plupart de ces partis, effectivement, même s'ils ne l'ont pas avoué, mais ils s'attendaient à être consultés et puis faire partie de ce gouvernement. Ça, c'est d'un. Et puis,
donc, vous voulez dire que dans ce gouvernement, il n'y a aucun membre de ce gouvernement qui porte les couleurs d'un parti politique. Qu'est-ce que cela signifie si cela est vrai? Est-ce que ça signifie que l'homme qui est issu d'un parti politique mais qui n'a pas porté la couleur politique continue toujours à ne pas donner une importance capitale aux institutions, ou bien c'est autre chose que cela?
Effectivement, en dehors du ministre de la Justice, qui est issu du Front National pour la Justice,
vous voulez parler de Madani?
Voilà, le FNJ, et le FNJ qui est le parti politique dont le président Sambi est lui-même cofondateur. Donc, je ne vois pas d'étiquette politique.
Donc, qu'est-ce que cela signifie alors quand, dans un gouvernement qui représente, en tout cas, une institution hein, qui n'a aucun membre issu des appareils.
Ceci étant, le président de la République l'a bien dit au lendemain de son élection. Il a dit qu'il n'est pas tenu à aucun des partis politiques. Autrement dit, les partis qui l'ont soutenu, ils l'ont soutenu par rapport à son programme, par rapport aux déclarations qu'il a faites, mais il n'est pas tenu à respecter ou à gouverner avec ses partis. Ça, c'est un volet. Et puis l'autre volet, vous savez très bien que cela fait un peu plus de mois, les Comores sont confrontés à des problèmes socio-économiques sérieux. Nous avons constaté une pénurie de matières premières, notamment le riz ordinaire, et puis le problème de carburant, et puis on a les problèmes des arrières et des salaires. Donc on croyait que, bon, effectivement, un remaniement maintenant, c'est opportun pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Bon, ça c'est la forme. Et par rapport au fond, est-ce que vraiment il y a un changement? Parce que c'est comme un jeu de dames. On a déplacé des pions pour les placer ailleurs. Et puis, on a déplacé des ministres d'un département à un autre département. Et puis, on a fait entrer d'autres personnes dans la nouvelle équipe gouvernementale. Et dans tout ça, s'il y a des leçons à tirer par rapport aux deux événements, autrement dit l'intervention militaire en juin et puis le problème socio-économique, je crois que bon, il y a eu une promotion et puis il y a eu une sanction.
Alors, la promotion,
c'est celle obtenue par monsieur Dossard, précédemment directeur de cabinet du chef de l'État, qui est maintenant membre du gouvernement à part entière, et puis qui devient ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État en charge de la défense. Ça, oui, c'est la promotion.
Oui, mais en même temps, ça en quelque sorte s'engage exactement la politique nouvelle de Sambi, parce que changer de terminologie, si j'ose dire, de cabinet de la défense, ministre de la défense, ça veut dire qu'il y a des enjeux de militaires qui sont en jeu actuellement.
Je ne sais pas, mais je sais tout ce que je sais, que bon, à l'issue de cette intervention militaire, je sais que bon, l'armée nationale de développement, notre armée qui a été soutenue par des forces étrangères, a brillé dans cette intervention militaire. Donc, si elle a brillé, bon, effectivement, derrière elle, il y avait des hommes, notamment Monsieur Dossard, qui était directeur de cabinet du chef de l'État en charge de la défense. Donc, il devient ministre à part entière, membre du gouvernement et puis ministre d'État. Donc, sur le plan protocolaire, sitôt après les vice-présidents, donc il vient en premier lieu. Ça, c'est la promotion.
La seconde promotion aussi.
Voilà. Et puis la sanction.
Je rappelle aussi qu'il est aussi chef de la défense et aussi de la sûreté du territoire.
Effectivement.
Aussi. Merci pour cette précision.
Effectivement. Et puis par rapport aux sanctions, nous sommes, comme on l'a mentionné, confrontés à des problèmes socio-économiques sérieux. On a le problème du riz, on a le problème du carburant, on a le problème des dents. Enfin, toutes les denrées de première nécessité, si on regarde sur le marché local, on trouve que bon, il y a eu une pénurie. Donc, et là, effectivement, il y a eu une sanction parce que le ministre de l'économie a quitté définitivement le gouvernement.
C'est Ahmed.
C'est
Hassan Ahmed, c'est ça.
Voilà.
Eh bien, est-ce qu'il y a aussi une sanction à Abdrahim qui avait le poste de ministre de l'Éducation et qui était renvoyé à l'information? C'est quand même une sanction, non?
Ça, je ne sais pas. En tout cas, il a un portefeuille important parce qu'il est en charge des postes et télécommunications. Quand même, ça, c'est un département important aujourd'hui parce que, bon, au niveau des postes, il y a des restructurations qui se font. La poste est en train de créer ou de mettre en place une banque postale. Quand même, c'est important. Et puis, à cela s'ajoutent les nouvelles technologies qui constituent un enjeu aujourd'hui pour tous les pays en développement. Donc, je crois qu'il a une mission délicate, une mission importante. C'est bien pour lui et c'est bien pour le pays.
Ce n'est pas une sanction.
Pour moi, ce n'est pas une sanction.
En ce qui concerne Magali, qui revient au poste de justice.
Je crois que bon, par rapport à Abdourahim, ce n'est pas une sanction.
Oui.
Quand bien même, il n'a pas beaucoup brillé au niveau du ministère de l'Éducation
Absolument.
Nationale.
Non. En ce qui concerne Madali, il revient au poste de la justice. C'est une confirmation, une attestation de la confiance de Saint-Pierre.
Oui, parce que, en fait, le ministère de la justice, c'est un ministère clé. Le président de la République lui-même, dans ses déclarations, il a dit que parmi ses priorités, c'est la justice. Une justice sociale, une justice équitable, une justice... Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une injustice. Une injustice sociale, une injustice... Parce que, bon, on a un ministère de la justice qui est instrumentalisé et qui essaie d'instrumentaliser tous les organes qui émanent de ce département. Donc je ne sais pas quelle serait la mission et quelle serait la mission qui sera confiée désormais, la feuille de route qui sera confiée désormais au ministre qui vient d'être confirmé, mais je sais que bon, il a été ministre de la justice, il n'avait pas brillé, son successeur non plus. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle feuille de route par rapport aux incohérences que nous avons vécues dans ce département? Si je parle d'incohérences, je vais citer deux ou trois exemples. D'abord, le fait que le chef de l'État a, dans une déclaration officielle, dit clairement qu'il a placé des magistrats sur écoute téléphonique. Je crois que bon, c'est une faute grave. Deuxième incohérence, quand vous avez l'avocat général du gouvernement qui indexe le ministre de la Justice, qui est allé jusqu'à le qualifier d'incompétent et dire que bon, c'est un ministre qui est en train d'instrumentaliser la justice. Quand vous avez des magistrats qui organisent, des hauts magistrats de la Cour d'appel qui organisent une conférence de presse pour dénoncer les manœuvres du procureur général, du président de la Cour d'appel et du ministre lui-même, je crois que là, il y a un dysfonctionnement au niveau...
Mais est-ce que dysfonctionnement ou volonté de mettre de l'ordre dans la justice? N'oublions pas que le président de l'Union des Comores, le président Ahmed Abdallah Sambi, est aussi garant du respect de la justice. Oui, est-ce que ce n'est pas cela qui a motivé ça?
Effectivement, ça pourrait être ainsi, mais malheureusement, ce n'est pas cela, parce que son rôle essentiel, d'abord, c'est de réformer la justice et c'est de mettre en place les institutions qui font défaut, notamment la haute cour de justice. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Ça, c'est d'un. Et puis, de deux, quand vous avez une décision qui a été prise en première instance, et puis confirmé par la Cour d'appel une première fois et puis une deuxième fois, et que bon, le gouvernement intervient et demande à ce que bon, cette décision ne soit pas appliquée et que les magistrats qui ont osé prendre cette décision ont été révoqués, là je crois que c'est un dysfonctionnement et une incohérence.
Une nouvelle politique, hein, pour finir ces commentaires politiques, bref, une nouvelle politique qui vient d'être inaugurée par Mme Assembly, notamment sur la révision du code de la nationalité. Alors, il est possible, probablement, que des gens de différentes nationalités que celles de notre pays soient bénéficiaires de la nationalité. Alors, que dites-vous de cette nouveauté?
Ça, c'est un problème très délicat, et puis ce n'est pas la première fois que des contacts ont été pris. Je sais très bien que bon, sous Abdallah, il y a des initiatives qui ont été prises par des gens qui représentaient les intérêts des Chinois de Hong Kong. Mais le gouvernement de l'époque avait rejeté en bloc ce dossier. Je sais que sous le président Taki, une initiative similaire a été prise pour justement octroyer la nationalité comorienne à un nombre de personnes résidant dans les pays du Golfe. Bon, mais les démarches n'ont pas abouti parce que effectivement, en analysant en profondeur ce dossier, les gens disaient à l'époque qu'il y aurait beaucoup de conséquences néfastes. Donc l'initiative qui vient d'être prise par le gouvernement, j'espère que le dossier sera examiné en profondeur, c'est-à-dire regarder tous les paramètres, parce que il n'y a pas que le volet financier. Si aujourd'hui on nous propose un certain nombre, enfin une certaine somme d'argent, on a parlé de 100 millions de dollars, mais il faut voir les...
C'est-à-dire, pourquoi parlons de 100 000 dollars dans une affaire de naturalisation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui demandent d'être naturalisés achètent l'acte d'être comorien ou...
Autrement dit, c'est ça, mais il y a d'autres enjeux sociaux, culturels et politiques.
Quels sont ces enjeux culturels et politiques?
Je vais les énumérer rapidement. Ces gens-là qui sont nés dans des pays comme le Koweït ou aux Émirats Arabes Unis et qui ne disposent pas de citoyenneté, alors que eux-mêmes ils sont nés là-bas, leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrières.
C'est là-bas, c'est-à-dire
au Koweït et aux Émirats. Oui. Mais ce sont la catégorie des personnes qu'on appelle les sans
papiers.
On les appelle comme ça, les sans, en arabe, les bidounes. Les bidounes, autrement dit, sont les sans-papiers.
Donc, ce sont des gens qui sont à la recherche d'une nationalité parce que vivant au Koweït, ils ne sont pas considérés comme étant les citoyens.
Effectivement. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir ni un permis de
conduire.
Non, un permis de résidence ou de séjour régulier parce que ils n'ont pas, enfin, ne connaissent pas leurs origines, alors que on sait très bien, on sait pertinemment qu'ils sont nés dans ces pays. Mais l'enjeu principal, c'est que bon, on va octroyer les nationalités à des gens que nous ne connaissons pas, à des gens que nous les avons jamais cohabités.
Ah oui, parce qu'ils viennent juste demander et le président souhaiterait leur accorder.
Voilà.
Donc, ce ne sont pas des gens qui ont vécu dans le territoire comorien pendant très longtemps.
Non, ils n'ont jamais et probablement ils ne viendront jamais aux Comores. Donc c'est une transaction qui se fera sur papier. On leur octroie la nationalité. Et puis le lendemain, tu vas entendre que bon, quelqu'un est impliqué dans je ne sais pas
quelle affaire
en Afghanistan ou en Irak, ou bien il est arrêté, il est à Guantanamo, et qu'on comptabilise une vingtaine de personnes, une cinquantaine ou une centaine de Comoriens qui sont arrêtés, impliqués dans des affaires louches, et qui sont arrêtés et placés dans une prison qui est à Guantanamo. Et puis on va dire, mais c'est quel Comorien? On va vous dire, il s'appelle Zaïd, il s'appelle... Alors que, bon, ils n'ont rien à voir avec les Comores.
Très bien, on va lancer une chanson avant de passer aux deuxième phase, actualité littéraire.
Real DJ, real music. Donc, Wadodori, Parisa, Harwa, nous sommes Dunia Web, @hotmail.fr.
Mi corazón,
mi corazón. Te lo dije muy clarito.
Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú.
Auditeurs, auditrices, je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions de l'actualité des Comores, soit concernant le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé depuis hier, soit sur l'actualité des Comores exemple, je sais pas, par exemple, sur le nouveau passeport biométrie, voilà, tout ça, ou sinon sur le nouveau matériel qui était donné à l'AND, bon, tout ça, vous pouvez poser vos questions à notre invité qui s'appelle Saïf Mohamed El Amin, qui est un grand diplomate, mais aussi essayiste, je pense que c'est ça. Voilà, mon confrère Jamal, tu m'écoutes, tu as l'antenne.
Très bien, on va commencer maintenant, Saïf El Amin, votre livre, hein, parce que bien, c'est la raison pour laquelle on vous a invité ici, à notre studio, et bienvenue à la radio Dunia Web. Eh bien, vous venez de sortir votre premier livre, c'est bien ça, c'est votre premier livre, vous avez déjà publié ailleurs.
C'est mon premier livre, j'ai publié des plaquettes.
Des plaquettes.
Voilà, des plaquettes sur le président Taki, oui. Sur le président Duhar et la démocratie, mais ça c'est le premier livre.
Alors, je rappelle que ce n'est pas un roman, ni une poésie, ni une pièce de théâtre, c'est bien
un essai,
donc qui a mobilisé beaucoup de réflexions et de références en relation internationale. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'abord de parler sur les Comores
Ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire des Comores. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur les Comores, mais la différence c'est que j'ai repris un peu ce qui a été écrit, je l'ai analysé, mais j'ai agi en même temps en tant qu'acteur, parce que je parle de ma propre expérience en tant qu'ambassadeur et en tant que ministre. J'ai passé pratiquement une quinzaine d'années au sommet de l'État, d'ambassadeur, conseiller du chef de l'État et ministre des Affaires étrangères. Donc, ce que j'ai vécu, il fallait porter ce témoignage à la population, mais aussi et surtout à ceux qui s'intéressent de l'histoire de notre pays, ceux qui consacrent leur temps à écrire sur les Comores.
Et ce travail est ambitieux parce que non seulement il relate l'histoire politique et quelques temps social des Comores, mais en même temps diplomatique, et il ouvre aussi une perspective, on va voir tout à l'heure, mais la question, alors, les Comores en mouvement, est-ce que c'est bien le terme? Les Comores est en mouvement, ou bien, en fait, en mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être, vous allez nous dire ce que cela veut dire, mais est-ce que c'est vrai, les Comores est en mouvement, ou plutôt figé sur les terroirs, leur propre identité, etc.
Ben, en fait, il y a des pays, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qui sont oubliés, qui sont dans des oubliettes, des pays où on consacre beaucoup d'études sur eux. Si vous prenez le cas d'un pays comme Kiribati, comme Nauru, ou bien un pays comme le Lesotho, ou bien le Swaziland en Afrique, on entend peu parler de ces pays. Mais quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous prenez un pays comme l'Égypte, comme le Maroc, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, comme l'île Maurice, donc on parle beaucoup de ces pays en termes de développement, en termes de démocratie, en termes... Donc les Comores également constituent quand même un thème essentiel qui intéresse les chercheurs, qui intéresse les politologues, qui intéresse les écrivains. On a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit sur les Comores, on a beaucoup parlé des Comores, mais la différence c'est que ceux qui ont consacré leurs études sur les Comores, ils ont parlé du mercenariat, ils ont parlé des coups d'État, ils ont parlé des côtés plutôt négatifs, alors qu'il n'y a pas que cela, il y a les côtés positifs.
Et sur quoi vous vous distinguez, vous autres?
Parce que, d'abord, il fallait relater le côté positif. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie en Afrique, je crois que les Comores fait partie des tout premiers pays qui ont organisé les tables rondes sur les nouvelles démocraties en Afrique. Et quand on parle de ce thème, on cite des pays comme le Bénin, alors que le Bénin a organisé sa table ronde après les Comores. Bon, aussi, en termes d'alternance, l'alternance entre Soglo et Kérékou, on dit que bon, c'est un pays modèle. C'est un pays modèle. Au moment où Kérékou a quitté le pouvoir, on a dit, bon, il a quitté de son propre gré le pouvoir, alors que, bon, il était frappé par l'âge. Alors que chez nous, l'alternance s'est faite entre Azali et le président.
Mais bien avant Azali, c'était Mohamed Taki et Mohamed Jarr.
On parle justement, entre Taki et, parce que le modèle qu'on a pris en Afrique, on parle toujours du Bénin. Mais le Bénin, je vous ai dit que bon, le président Kérékou était frappé par l'âge, il pouvait pas se représenter. Alors que bon, au Comores, le président Azali avait la latitude de se représenter aux élections. Vous savez très bien qu'en lisant la constitution des Comores, il est dit que le président est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable. Mais c'est Azali, justement, qui a fait réviser cette constitution.
Qu'il a respecté.
Et qu'il a, qu'il a respecté. Donc je crois que bon, ça c'est un modèle. C'est un modèle qui devait être... Mais comme les Comores sont un petit pays, on n'en parle pas. On parle du Bénin comme modèle, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle d'autres pays.
Ça, c'est le côté positif.
Ça, c'est le côté positif.
Le côté en mouvement, mise en mouvement.
Oui,
mise en mouvement.
Voilà.
Mais est-ce que ça a pour...
Je voudrais également ici relater deux points essentiels.
Oui.
Parce que on dit les Comores, c'est quoi? Ce sont des rochers, quatre rochers jetés dans l'océan Indien. Non, c'est un pays qui occupe une place hautement stratégique. Et nous sommes vraiment fiers de cette appartenance à ce pays qui occupe cette place hautement stratégique.
Mais pour quel intérêt? Est-ce que ça a intérêt pour le développement des Comores, pour les Comoriens eux-mêmes, ou à leur désavantage?
Non, au contraire. Au contraire, il faut bien s'y prendre parce que bon, un pays, si vous prenez le cas d'un pays comme Djibouti, ou bien vous prenez le cas d'un pays comme l'île Maurice, ce n'est pas semblable, alors que bon, eux, ils en tirent le maximum possible de profit. Donc, une petite stabilité politique dans notre pays, vous allez voir qu'il y aura des retombées importantes. Parce que nous sommes à l'entrée du canal de Mozambique et à la sortie du canal de Suez.
Alors, si
nous sommes en face des détroits d'Hermoz et de Bab el Mandeb. Nous sommes sur la route maritime des grands pétroliers, la route maritime des Indes. Donc, tous les pétroliers de ce monde traverse par l'espace comorien. Donc, les Djiboutiens, par exemple, ils arrivent quand même à tirer le maximum possible de profit parce que avec la présence des Américains, leur base militaire à Djibouti, et puis la base militaire française à Djibouti, donc ils sont là, ils contrôlent les mouvements qui s'opèrent au niveau du Moyen-Orient. Alors que, bon, les Comores, nous sommes beaucoup plus proches du Moyen-Orient que Diego Garcia, là où se trouve la base essentielle militaire des Américains. Mais il suffit d'avoir le minimum possible de stabilité politique pour en tirer profit de cette position hautement stratégique.
Donc une stabilité politique. Alors, mais comment se fait-il que Comores aujourd'hui, étant situé au même que l'île Maurice, les Seychelles ou bien Madagascar. Bon, Madagascar, point de vue peut-être PIB, on dit, les économistes disent comment PIB ou c'est brut. En tout cas, le taux de PIB est plus élevé que le nôtre. Je sais pas, bon, je vais pas le donner, mais je dis comme ça peut-être par intuition. Alors, comment expliquer cela que les îles Comores se trouvent toujours en ébullition? Est-ce que c'est pas bien le terme qu'un mouvement?
Non. Écoutez, ça c'est une situation qui est voulue ainsi et puis qui est entretenue. Je vous dis, le problème de l'indépendance inachevée. Pourquoi? Alors que bon, toutes les données faisaient que les Comores devaient accéder à l'indépendance sur la base des textes qui ont été signés, les négociations et puis l'évolution même du statut de notre pays. Vous savez, il y a des pays comme, je ne sais pas, Madagascar et dépendant, c'est-à-dire Madagascar et des Comores, il y avait une unité juridique. Mais notre unité, par rapport à Mayotte, ce n'est pas uniquement une unité juridique, mais c'est une unité organique. Donc, sur le plan géographie, sur le plan histoire, sur le plan sociologique, sur le plan... Donc, nous sommes liés avec les Maorés. Aujourd'hui, la France, qu'elle installe un centre d'écoute à Mayotte, pourquoi c'est pour l'importance justement occupée par notre espace. Donc c'est voulu, cette situation est voulue ainsi. Donc moi,
non, dans voulu, ça veut dire quoi cette situation, cette instabilité
politique, c'est entretenue par aujourd'hui quand on parle de Bob Denard comme mercenaire qui vient agir dans notre pays, il travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, justement, c'est quelqu'un d'autre qui est derrière Bob Denard qui le pousse à agir ainsi. C'est lui qui trouve ses intérêts immédiats et directs par rapport à cette instabilité.
Bob Denard est déjà parti. Alors, si je comprends bien, vous voulez défausser ou faire défausser la responsabilité de la classe dirigeante comorienne sur des éléments étrangers.
Non, vous ne m'avez pas posé la question par rapport à la classe dirigeante comorienne.
Oui.
Mais moi, j'avance des pistes, et parmi ces pistes, les coups d'État. Donc, les coups d'État, il y a des gens, il y a des Comoriens qui sont impliqués dans ces coups d'État. Il y a des Comoriens qui entretenaient des relations avec ces mercenaires. Ils avaient leurs propres intérêts, mais cela n'exclut pas qu'il y ait d'autres forces étrangères ou d'autres forces occultes qui avaient elles aussi leurs propres intérêts par rapport aux interventions et aux agissements de Bob Denard.
Bien. Alors, sur la définition elle-même territorialité, hein, la territorialité de comment vous la remettez, je dirais pas en question, mais vous dites que même les comment, même s'il y a une unité culturelle, politique, religieuse, mais il y a un doute, il y a un déficit lié au flou des frontières, de la définition des frontières.
Oui, justement, parce que aujourd'hui, le plus important, c'est parmi les pistes que j'ai avancées, justement, pour voir ces aspects-là. Nous avons des économistes, nous avons des géographes, nous avons des historiens, nous avons des stratèges, nous avons donc à ces gens-là. Au lieu de s'attaquer au gouvernement, dire que bon, le président Sambi n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, mais eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. Vous, en tant que politologue, vous, en tant que sociologue, vous avez votre rôle à jouer. Donc aujourd'hui, je voudrais dire, les frontières des Comores, parce que quand vous dites les Comores, vous parlez de quatre îles. Et puis nous.
Et pour vous, ce n'est pas quatre îles, alors.
Non, nous avons un litige.
J'arrive. Allez-y.
Nous avons un litige avec la France.
Oui.
Donc, chaque fois, on évoque la problématique ou bien la question de Mayotte. Mais au-delà de la question de Mayotte, est-ce que nous avons défini nos frontières avec la Tanzanie? Est-ce que nous avons défini nos frontières avec le Mozambique?
Ça veut dire quoi, ça?
Avec Madagascar.
C'est-à-dire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une part des territoires tanzaniens qui peut être une part comorienne.
Bon, peut-être. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut explorer nos richesses maritimes, à commencer par exemple, parce que bon, il y a eu des projets, il y a des gens qui viennent et qui s'intéressent, des groupes importants qui viennent, qui s'intéressent par exemple, qui veulent voir si le sol comorien regorge du pétrole par exemple. Mais ça, on ne peut pas le faire sans avoir délimité nos frontières avec les autres pays, autrement dit avec Madagascar, avec la Tanzanie, avec le Mozambique. Vous savez que bon, la Tanzanie dispose de cette richesse, le pétrole, Madagascar aussi, Mozambique a du gaz, donc certainement les Comores ont soit du gaz, soit du pétrole. En tout cas, il faut essayer d'explorer, il faut essayer de chercher, peut-être qu'on en trouvera. Mais avant de procéder à ces recherches, parce que bon, récemment, il y a un an et demi, le gouvernement comorien a fait venir un groupe d'investisseurs étrangers et a signé un contrat d'exploration du pétrole avec ce groupe. Mais ce travail ne peut pas être fait sans que nous puissions délimiter nos frontières avec les pays riverains. Autrement dit, avec Madagascar, la Tanzanie et Mozambique.
Très bien. Alors, puisqu'on parle des frontières, on va parler aussi de la question de Mayotte de façon brève. Dans votre livre, vous parlez de souveraineté partagée comme étant l'une des espaces possibles pour résoudre la crise. Ça veut dire quoi, la souveraineté partagée avec la France?
Ben, dans un premier temps, parce que vous savez que maintenant la souveraineté sur Mayotte appartient à la France aujourd'hui. Mayotte est une île qui est administrée par la France. Donc, ce que je veux, ou bien ce que je propose, dans un premier temps, comme nous avons réussi à mettre en place des entités qui s'autogèrent, c'est-à-dire une autonomie de gestion, à Moëli, à Anjouan, à la Grande Comore, dans le cadre de la nouvelle constitution, mais aussi à Mayotte. Et puis, les questions de souveraineté pourraient, dans un premier temps, être gérées par les deux parties, c'est-à-dire la partie française et la partie comorienne, comme cela a fut le cas à Hong Kong, à Macao, à Hong Kong entre les Britanniques et les Chinois, à Macao entre les Mozambiquais entre les Portugais et les Chinois, jusqu'à une date récente, à partir de laquelle Hong Kong a été confié à la République populaire de Chine, qui exerce pleinement la souveraineté. Sa souveraineté.
Mais c'est une souveraineté politique, mais la souveraineté économique n'a pas changé de donne. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Rien, ça veut dire, il suffit que de dire sur le papier que Mayotte est comorienne, mais au fond, c'est-à-dire, voilà, vous êtes libre, mais je vous coupe le pied. Mais
non,
ça va marcher.
Non, ce n'est pas comme ça.
Allez-y,
non,
alors, c'est comment ça,
parce que quand vous prenez le cas de Taïwan, la souveraineté, elle est exercée par Taïwan.
Oui.
Donc économique et politique. Et Taïwan est reconnu par quelques pays, je crois en Afrique il y a de moins en moins, aujourd'hui il y a à peu près 3 ou 4 pays qui reconnaissent Taïwan comme étant un pays souverain indépendant. Nous, en tout cas aux Comores, on ne reconnaît pas cette souveraineté de Taïwan, mais la souveraineté que nous reconnaissons, c'est celle de la République populaire de Chine. Bon, mais quand vous prenez le cas de Hong Kong, Hong Kong fut administré par les Britanniques. Donc c'est la Grande-Bretagne qui exerçait pleinement la souveraineté sur Hong Kong. Mais quand ils ont signé les accords avec la République populaire de Chine, en quelque sorte, c'est une souveraineté partagée jusqu'au jour où ils ont officiellement remis Hong Kong aux mains des Chinois et qu'aujourd'hui, il y a 2 systèmes. Mais il y a une seule souveraineté. 2 systèmes d'administration, mais il y a une seule souveraineté.
Quelles sont les caractéristiques de cette souveraineté?
Vous savez, la République populaire de Chine, c'est un pays progressiste, socialiste, depuis Mao Zedong, et que, bon, ils ont un système économique propre, comme les autres pays socialistes, alors que, bon, à Hong Kong, ce n'est pas le cas. Ils continuent toujours à appliquer l'économie de marché, un système plus ou moins capital, donc sans que cela fasse l'objet de quelconque problème avec les autorités de Pékin.
Donc ça veut dire que pour résoudre la question de Mayotte, seule issue possible, c'est la souveraineté partagée. C'est bien ça.
C'est un problème, je dis que bon, ça c'est progressif. C'est progressif. Dans un premier temps, on laisse les problèmes liés, par exemple, les problèmes de...
Économiques.
Les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes aux mains des Maorais, qui vont travailler en étroite collaboration, parce que notre constitution le permet, avec les entités qui composent l'Union des Comores, sachant pertinemment que selon notre constitution et selon les accords de Fombonie, Mayotte fait partie intégrante. Donc, comme la Grande Comore peut collaborer et coopérer dans le cadre de la coopération décentralisée avec Anjouan, elle peut travailler avec Mayotte comme elle peut travailler avec la région de PACA ou bien avec la région de Bouches-du-Rhône, etc. Donc, le président Mohamed Abdelwahab, comme le président Elbag dans le passé, a signé des accords avec la région de Casablanca, la grande Casablanca. Il a signé des accords avec une région qui est aux États-Unis d'Amérique, comme Elbag l'a fait avec la région de PACA. Donc, ça, c'est une étape. Et puis ensuite, au moment où la France, selon les accords, les termes de référence des accords que nous allons signer avec la partie française, un peu renouveler les accords de 1973, donc la France va céder la souveraineté des Comores pleinement. Autrement dit, les questions qui relèvent des affaires étrangères et de la défense extérieure aux autorités comoriennes. Donc ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, mais le plus important, c'est d'engager les négociations dans ce sens.
Très bien, eh bien, ne quittez pas ce fait la mine, on continue notre discussion après avoir écouté ça.
Real DJs, real news.
C'est parti. Je rappelle aux auditeurs, auditrices, que à la fin de notre émission, on va écouter l'inauguration du nouveau centre passeport biométrique. Pour ceux qui veulent savoir plus de renseignements, vous savez que depuis quelques jours maintenant, les commandes sont rentrées dans le monde de la biométrie. Pour ceux qui voudraient avoir un passeport, maintenant il faut poser un œil pour qu'on puisse avoir notre passeport. Voilà, mon confrère Jamal, si tu écoutes, tu as l'antenne.
Merci beaucoup. Alors, on continue avec Seif Mohamed Elamine, diplomate et essayiste, qui vient de publier aux éditions de la Lune, Les Comores en mouvement. Alors, on a compris bien que Les Comores en mouvement, eh bien, c'est que ça a apporté beaucoup de choses, parce que du fait que Les Comores n'est pas resté dans des structures plus figées, mais dynamiques, eh bien, ça portait un avantage parce que on a été parmi les pays modèles de la démocratie, dites-vous.
Absolument. Absolument. Si aujourd'hui vous lisez les rapports des ONG qui évaluent les démocraties, mais vous trouverez que bon, les Comores n'ont rien à voir avec un pays comme l'Érythrée en matière de presse, de publication. Je crois que bon, si des fois il y a des impairs, mais en ce sens, je crois que bon, la démocratie a été toujours respectée dans notre pays. La presse, les journalistes exercent leurs fonctions sans problème aucun. Les partis politiques, nous sommes parmi les pays, je dirais même qu'on a exagéré un peu, mais depuis l'arrivée de la nouvelle démocratie dans notre pays, aux années 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a les partis politiques qui partout agissent. Sauf que moi, à mon avis, il faudra peut-être refonder un peu, il faudra revoir parce que je crois qu'on abuse un peu. Le fait de créer un parti aujourd'hui, ou le fait d'adhérer à un parti politique aujourd'hui, et puis le lendemain, on quitte ce parti, on va adhérer à un autre parti, et puis le surlendemain, on quitte ce deuxième parti, on va adhérer à un troisième parti. Je crois que bon, là, il faudra absolument établir des règles. Un leader politique qui crée son propre parti aujourd'hui, et puis le lendemain, il quitte, il va scinder le parti en deux, il va créer un autre parti parce qu'il veut se positionner par rapport à quelque chose qui va se présenter. Je crois que là aussi, il faudra absolument établir des règles. Il faudra que les députés, il faudra que l'Assemblée nationale jette un coup d'œil sur le mode de fonctionnement des partis politiques dans notre pays.
J'ai une petite question. Je sais que là, vous venez de parler un petit peu des partis politiques. Et c'est qu'au moment des élections de l'Union des Comores, on avait reçu les listes des partis politiques qui se trouvent aux Comores. Nous, on a compté une trentaine de partis politiques. Pensez-vous pas qu'aux Comores, une petite île comme l'île de Comores, qui comporte à peu près 600 000 habitants, n'a pas trop de partis politiques?
Ce n'est pas un problème, c'est une forme de démocratie. Les États-Unis, c'est le plus grand pays en termes d'État, compte deux partis essentiels, mais c'est une forme de démocratie. La France est plus petite par rapport aux États-Unis. Elle compte une trentaine de partis politiques. C'est une forme de démocratie. La République populaire de Chine, c'est un grand pays, milliards d'habitants, et là on compte un seul parti politique. C'est une forme aussi de démocratie. Donc je crois que bon, le plus important, il faut établir des règles. Au lieu de créer un parti et puis quitter le parti le lendemain pour aller adhérer à un autre parti parce qu'on veut se positionner justement par rapport à un remaniement qui est annoncé, c'est là où il faut agir et puis éviter.
Est-ce que justement cette versatilité politique, le fait de changer de veste, d'étiquette politique, n'est pas lié au fait qu'à Comores, il y a toujours des problèmes socio-économiques, raison pour laquelle le marxiste le plus connu des années 60, Frantz Fanon, disait que privé d'une base socio-économique et solide, les élites ou l'élite politique tend justement à vivre des trajectoires ou d'expériences parfois versatiles, parfois tentées à l'illégalité, à ne pas avoir une idéologie propre, solide et précise. Est-ce que le développement économique n'est pas la condition sine qua non justement
ça fait partie,
promouvoir et inaugurer les bases dont vous parlez?
Ça fait partie, d'où la nécessité de procéder à une réelle éducation. Je vais prendre l'exemple parce que il y a des gens qui ont des biens immobiliers dans leur région. Il y a des gens qui disposent des terrains, des champs de plantation, mais ils préfèrent procéder à un exode rural, aller s'installer à Moroni, louer une maison, travailler et puis percevoir un salaire de 25 000 francs ou de 40 000 francs au bout de chaque cinquième ou sixième mois, alors que bon, ils feraient mieux dans leur propre région, dans leur propre village. À cela s'ajoute aussi l'immigration. Il y a des gens qui vendent carrément, qui ont de l'or, qui ont des champs de plantation, de vanille, etc., des bœufs, ils vendent pour venir chercher une vie meilleure en France, à titre d'exemple. Donc, alors que avec une petite orientation, une petite éducation, ces gens-là pourraient investir leurs propres biens, déjà, que ce soit l'or, que ce soit les bœufs, que ce soit, donc, et puis vivre mieux chez eux que de venir ici à la recherche des papiers qu'ils ne trouveront jamais, de venir ici à la recherche
d'un bonheur rêvé
qu'ils ne trouveront jamais. Donc, et là, justement, ça c'est le rôle de tout le monde. Ça c'est le rôle aussi bien du gouvernement. Au niveau du gouvernement, il y a eu toujours des ministères sont des ministères, je dirais, de figuration, mais c'est aussi le rôle des partis, c'est aussi le rôle de la société civile, c'est aussi le rôle des médias, le rôle des intellectuels comme vous.
Avant d'aller un peu plus loin hein, sur le contenu du livre, je pense que l'un des problématiques dont vous avez soulevé, c'est que les Comores ont vécu trois républiques. Alors, quelles sont ces trois républiques et leurs caractéristiques?
Voilà. Moi, en parlant des républiques, je me suis basé ou référé aux différentes constitutions. À vrai dire, il y a eu trois constitutions. Il y a la première constitution, c'est-à-dire...
De 78
Non, c'est pas de 78, c'est la constitution de 76, la constitution d'Ali Soilé, nous a permis de mettre en place un État unitaire, l'État comorien.
Alors, est-ce que c'est l'État dont rêvait Patrice Lumumba?
Absolument, c'est un peu dans ce sens, parce que bon, Ali Soilé, effectivement, il a fait beaucoup de choses, mais il était confronté à des sérieux problèmes par rapport à tout ce qui était autour de lui et par rapport à la région et par rapport même à la donne de la communauté internationale. Et puis la deuxième
donc ça c'est la première république, une république unitaire,
c'est-à-dire voilà.
Qui dépasse les ethnies, les
voilà.
Classes
dépasse,
sociales,
voilà, parce qu'elle soit
les îles,
il a réussi
etc.
à transcender les clivages insulaires. Donc on n'arrivait pas à distinguer entre Mgazija, Mzouani, Maore, mais on avait le grand frère qui était Ali Soilé et puis le reste, donc qui étaient des frères qui travaillaient. Donc qu'ils soient en Joanné, on peut être en Joanné et puis nommer Moudir dans la région de Tinimwapanga. Ou bien être, je ne sais pas, issu de Moéli, nommé
directeur en juin,
sans que cela
pose problème. Alors, la première république, c'est une république unitaire, d'Ali Soilé. La seconde,
c'est la république fédérale. La république fédérale, donc la constitution de 1978 apprenait des institutions fédérales. Autrement dit, une décentralisation. Donc on a essayé de mettre cela en exécution de 1978, je crois, jusqu'en 1984, mais sitôt après, le président Abdallah a demandé à ce que bon, ça soit révisé, parce que il s'est rendu à l'évidence que les gouverneurs des îles étaient en train de grignoter son pouvoir. Donc quand vous avez un gouverneur qui a des commissaires autour de lui, qui a une police, qui a un fanion, donc il s'est rendu à l'évidence qu'on était en train de grignoter. Ça c'est un aspect, et puis l'autre aspect, on n'avait pas réellement à l'époque les moyens matériels pouvant nous permettre d'exercer ce fédéralisme au niveau de toutes les régions. Bon, cette constitution de 1978 a été révisée par Ahmed Abdallah lui-même, je crois à deux reprises. La deuxième révision date de 1989, quelques semaines avant sa disparition. Et puis ensuite, cette même constitution a été révisée par Johar. Et puis, elle a été aussi révisée par Taki, qui limitait les partis politiques. Parce que bon, à l'époque d'Abdallah, on avait un seul parti politique.
Oui, justement.
Johar, il a ouvert le pays vers la démocratie. Donc, il a autorisé la multiplication des partis politiques.
Est-ce que ce parti politique qui a été pendant le régime Johar, et puis Abdallah, et puis Johar, et puis Taki, voulait hein, le faire. Est-ce que c'était basé sur un système plutôt incorporant les classes les plus inférieures, les moins représentées, ou plutôt un système politique basé sur une logique excluant hein?
Ce n'est pas une logique excluant, sauf que bon, cette culture de de démocratie n'a pas été réellement vulgarisée. Pour que, bon, ben, y a des gens qui disent, mais pourquoi adhérer à un parti politique? Quel serait mon avantage? Moi, qu'est-ce que je vais gagner? Mais ceux qui essayaient de comprendre, ou bien qui étaient proches des élites à l'époque, ils s'accrochaient parce qu'ils savaient que, bon, il y avait quelque chose apparemment à gagner. Donc, le président Taki, il a fait réviser cette constitution de 1978 à sa façon et il a limité les partis politiques à deux partis seulement. Et alors, donc ça c'est la deuxième pour moi dans mon entendement, ça c'est la deuxième république.
Donc la république fédérale à partie
des Comores
à partie unique.
Non, c'est pas partie unique, la république fédérale islamique des Comores de 1978 jusqu'à 2002. C'est-à-dire cette république, cette deuxième république, elle a connu Abdallah, elle a connu Johar, elle a connu Taki, elle a connu Tajidine, elle a connu Azali.
Ah bon.
Voilà, donc parce que même s'il y a eu des amendements, s'il y a eu des révisions, mais ce sont des révisions qui n'ont pas remis en cause le fond de cette constitution. Donc il a fallu attendre jusqu'à 2001, fin 2001 et puis début 2002 avec la nouvelle constitution qui crée l'Union des Comores où il y a un chamboulement. Effectivement, il y a des nouvelles institutions qui n'ont pas été prévues dans la deuxième constitution, qui aujourd'hui que ça soit au niveau des îles, les assemblées par exemple les parlements insulaires, l'exécutif au niveau de chaque île. Donc ce sont des dispositions qui n'ont pas été citées dans la constitution de 1978.
La troisième république.
Donc ça parle. C'est la troisième république. Donc cette troisième république a connu déjà.
Alors mais laquelle?
Azali,
elle est
des... oui. C'est l'Union des Comores.
L'Union des Comores.
Donc elle a connu déjà Azali. Donc Azali, si on veut dire. Il est comme le président De Gaulle à l'époque qui a connu
la quatrième république
et la cinquième république. Donc Azali, il a connu.
Donc vous voulez comparer Azali comme De Gaulle, d'autant plus qu'ils sont militaires tous les deux.
Non,
vous reconnaissez une certaine tradition gaulliste.
Non, c'est un exemple. Vous pouvez citer autant d'exemples que vous voudrez. Vous aussi. Donc vous pouvez puiser dans vos connaissances en histoire.
Ce que je ne comprends pas, parce que finalement, Azali étant l'accolé en quelque sorte président et régnant dans un régime fédéral, me paraît un peu improbable, parce que ce sont de nouvelles institutions, tout à fait nouvelles, avec des nouvelles pratiques, avec des nouvelles générations. Comment se fait-il que vous classez le régime Azali dans le régime fédéral? C'est pas plutôt des régimes confédérales, non, beaucoup plus d'autonomie aux îles que ne l'a fait des régimes fédéraux.
Mais justement, c'est un système qui a été créé en 1978, mais à l'époque, Ahmed Abdallah, il n'avait pas les moyens matériels réellement pouvant faire en sorte que bon le système soit réellement un système fédéral. Il y a un prix à payer. Vous savez la constitution d'Ali Swali. Abdallah, quand il est arrivé au pouvoir, il a chamboulé, il a changé parce que c'est comme ça qu'il voulait. Bon, nous avons de 1978 jusqu'à 97, on avait toujours cette constitution de 1978 amendée, mais il y a eu cette révolution en juin, il y a eu la crise en juanaise, et puis il y a eu des concertations, il y a eu des consultations, il y a eu une conférence à Addis Abeba sous l'égide de l'Union africaine, de l'OUA, il y a eu une conférence internationale à Antananarivo sous l'égide de l'OUA, c'est la deuxième conférence sur les Comores par rapport à la crise en juanaise, mais en fin de compte, et puis il y a eu celle de Moéli, mais en fin de compte, les enjoinés ont dit non, nous voulons une décentralisation, nous voulons une large autonomie, quel que soit le prix à payer. Donc, c'est une question. Au lieu d'aller vers la consolidation de la politique de briser l'unité, l'intégrité territoriale de notre pays, de briser la souveraineté de notre pays, il y a un prix à payer. Donc aujourd'hui, il faut absolument que les gens se ressaisissent. Moi, j'ai suivi un peu le débat ces derniers temps. On dit on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir quatre gouvernements, comme l'a dit le président de la République, son Excellence Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. On ne peut pas avoir quatre parlements. Il faut pas avoir. On ne peut pas avoir. Non. Je crois que bon, là, il faut agir intelligemment. Si vous prenez le cas d'un pays comme les Émirats Arabes Unis, il y a sept émirats qui constituent les Émirats Arabes Unis. Ils ont parlé d'une présidence tournante depuis la création du pays en 1971. Donc, il fallait gouverner pendant 5 ans et que la présidence soit tournante. Mais cette présidence n'a jamais été tournante. Parce que Cheikh Zayed, il a régné jusqu'en 2004. Il est décédé en 2004 à peu près. Et le jour où on a soulevé ce problème, il a dit, ben écoutez, il y a un prix à payer. Celui qui paye, gouverne. Donc, il a gouverné jusqu'à 2000.
Quel est ce prix-là, justement?
Ben, parce que bon, ce prix-là, c'est que dans ces Émirats, Abu Dhabi prenait pratiquement 90%. Prenez en charge 90% le budget de l'État.
Alors, vous voulez dire qu'en inaugurant les élections nouvelles, vous voulez dire que Gazidja, puisque c'est l'île qui paye le...
Vous ne pouvez pas me poser de questions à la
allez-y,
fois.
Allez-y.
Je vais poser une question par rapport justement aux institutions.
Tout à fait.
Là où je vais arriver, ce n'est pas par rapport à la tournante, parce que moi je suis pour la tournante. Mm-hmm. Moi je suis pour la tournante. Mais là où je vais en arriver, c'est que si vous prenez le cas de Dubaï, qui ne connaît pas Dubaï? Dubaï, c'est un émirat riche qui dispose de moyens financiers énormes, une zone franche, un grand port au niveau de la région, et puis un grand aéroport, et puis la compagnie Emirates. Tout ça, c'est Dubaï. Mais je vous garantis qu'à Dubaï, il n'y a pas un gouvernement. Nous avons Sharjah, qui est également un émirat, c'est le troisième, et qui a de très bonnes relations avec le gouvernement comorien. Il n'y a pas de gouvernement au sens de gouvernement comme chez nous, avoir des ministres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez l'émir de Dubaï, comme l'émir de Sharjah, qui, à la fin de chaque semaine, se réunit en guise de conseil de ministres. Il se réunit avec le directeur de la télé, avec le directeur de l'aéroport, avec le directeur général de la chambre de commerce, avec le directeur général de la société de l'électricité. Ils font le point par rapport à la marche du pays. Et puis, il est représenté au sein du gouvernement central des Émirats Arabes Unis. Vous voyez? Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, effectivement, la Grande Comore n'est pas obligée d'avoir un gouvernement de 8 ministres, et puis chaque ministre là, il a un secrétaire général, il a un directeur de cabinet, et puis il a des directeurs régionaux pour faire quoi? Donc il faut agir intelligemment. Il est là,
il peut travailler
comment dirais-je, avec deux ou trois têtes, et puis ensuite il relègue ses pouvoirs, un peu comme les régions ici. Vous avez le président, par exemple, de la région de Île-de-France. Vous savez comment il agit. Donc c'est un peu dans ce sens. Vous avez le président du Poitou-Charentes. Vous savez comment il agit. Et c'est un peu dans ce sens. Mais aujourd'hui, vous allez prendre l'île de Moélie. Vous avez le président. Il a 5 ou 6 ministres. Et chaque ministre, là, il a un secrétaire général. Donc c'est un doublon, parce que vous avez le ministre des Transports des Comores. En juin, ils ont un ministre des Transports. À Moélie, ils ont un ministre des Transports. À la Grande Comore, ils ont un ministre des Transports. Et puis chaque ministre là, il est doublé par un secrétaire général. Pour faire quoi? Tout ce monde là pour faire quoi?
Justement, donc, cela,
je crois que bon, il faut agir intelligemment,
parce que cela contribue à dévaluer quand même la fonction du président, la fonction. On a vu récemment la dame de l'île d'Ngazija boycotter, si j'ose dire, hein, la fête. Donc cela quand même peut-être à partir d'hier, avec cette diversification des fonctions ministérielles, que chacun peut se dire ministre, quelque façon.
Voilà, mais vous savez que bon, là il y a un problème effectivement de fond par rapport à ces fonctions, donc il faut agir intelligemment. Et puis par rapport à l'État, si vous dites que bon, il y a une cérémonie, il y a un travail préalable qui se fait chaque fois que bon, il y a une grande cérémonie où le chef de l'État est appelé à y participer. Donc il y a le travail du protocole d'État, Et puis il y a le travail de la sécurité. Si on avait un protocole d'État digne de ce nom et on avait des services de sécurité dignes de ce nom, cela n'allait pas agir.
On ne va pas commenter ces faits divers, mais politiques.
Vous avez soulevé. Je veux dire que bon, la réaction de la première dame de la Grande Comore n'allait pas être perçue ainsi si on avait un bon fonctionnement du protocole d'État et puis un bon fonctionnement des services de sécurité.
Mais agir ainsi n'était pas au désavantage du président de l'île. Parce que, au final, agir ainsi que
mais
la dame
de
la première...
Mais je ne sais pas. Que je sache, elle n'a pas fait une conférence de presse pour dire, pour relater... qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être qu'elle était malade. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Nous sommes des êtres humains. On peut s'en excuser. Vous savez que bon, même en pleine tribune, en prononçant un discours, il peut vous arriver quelque chose.
Tout à fait.
Et puis bon, vous vous retirez. Même en faisant la prière, vous êtes imam, vous faites la prière. Mais tout ça, il y a des dispositions, il y a des clauses qui régissent le fonctionnement des affaires.
Bien, passons à ces faits divers. On passe un morceau musical avant de continuer notre débat avec Sophie Lamine, notre invitée de Livre et les Hommes.
Real DJ, Real News.
Wahunde bahati wonezi MSN na donko wadojauri Parisa harumwa nchoka ureme dunia weba @hotmail.fr.
One ticket please. Now let me see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay.
Oui, ça c'est Barry White. Watuku fuwaye eradulunga mjizenu kagandula mba ya madisi da sine manyama jemel ukaya invite watu waho osukolo Sharif Mohamed El Amin ukawoyi ngan diplomate encore senga essayiste ngan mjizenu kaya eka satimizi madisa tu banda resipuiza resazu ngan jonda hudunga hafla ya kandile ya yuhumoronu kwa doko ya Rangwa sina tuchwa nuhenda huonigiri wazi pasporo biometri Gajuda hudunga imadis Monsieur Jamal, voici la question qui est posée par un confrère qui se trouve à La Réunion Croyez-vous, monsieur le ministre, que le nouveau passeport est très efficace dans la mesure où des autorités sont parfois impliquées dans la distribution frauduleuse de ce passeport, même ceux qui se disent diplomatiques, je vais témoigner devant Dieu que j'ai vu un passeport délivré en 2005 comporte aucune timbre et que le bénéficiaire a eu le lendemain. Que pensez-vous de ce témoignage concernant les nouveaux passeports? Bon, je pense pas qu'on parle, on parle de nouveaux passeports, on parle des passeports anciens. Alors, la question est le suivant. Croyez-vous, je vais arrêter la musique, voilà. Croyez-vous, monsieur le ministre, que ce nouveau passeport est très efficace dans la mesure où des autorités sont parfois impliquées dans la distribution frauduleuse de ce passeport, même ceux dits diplomatiques, et qu'il témoigne devant Dieu qu'il a vu un passeport délivré en 2005 qui ne comporte aucune timbre et que le bénéficiaire l'a eu le lendemain.
Et là, je suis vraiment content qu'il y ait des gens de la diaspora qui effectivement suivent les émissions de la radio d'Unia Web. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer tous nos compatriotes qui sont dans l'île sœur de la Réunion et le remercier de l'importance qu'ils veulent bien accorder à cette émission. Par rapport au passeport, d'abord les passeports biométriques, l'idée c'est quoi? C'est sécuriser davantage les passeports et les autres pièces d'identité. Donc c'est une idée qui ne date pas d'hier, mais c'est une conception qui émane d'un certain nombre de grands pays, notamment les États-Unis. Donc ils ont réfléchi, ils ont agi et ils ont demandé à ce que les autres pays agissent ainsi. Justement pour se rassurer des mouvements des personnes, notamment ceux qui vont dans leur pays. Ils ont commencé par les visas et puis ensuite ils ont continué dans cette politique en mettant en place les passeports biométriques. Moi, ma seule préoccupation par rapport à la mise en circulation de ces passeports dans notre pays, c'est pas la sécurisation, mais plutôt les délais, parce que bon, nous sommes un petit pays qui n'a pas des moyens, alors que bon, les États-Unis, ils ont les moyens. Donc leur mission, par exemple, aujourd'hui, que ça soit à Maurice ou à Madagascar, ici en France ou ailleurs, ils savent très bien que leurs missions sont bien équipées, justement pour servir leurs compatriotes qui sont expatriés. Autrement dit, pour mettre à leur disposition les passeports sans problème. Donc, je crois que bon, là, il faudra prendre quelques délais. La France a mis en circulation ses passeports, mais les Français ont encore 2 ans ou 3 ans pour que ils en finissent avec les anciens passeports. Donc, je crains que les Comores disent que bon, au bout de 6 mois ou au bout d'un an, les passeports qui sont déjà en circulation ne soient pas valides. Ça c'est ma préoccupation par rapport aux passeports biométriques, mais en soi je crois que bon, c'est une très bonne chose. Par rapport à la circulation ou bien à la délivrance des passeports, il faut distinguer entre deux passeports. Le passeport ordinaire et le passeport de service et le passeport diplomatique. Le passeport ordinaire, c'est un document qui prouve la citoyenneté de celui qui porte ce document. Autrement dit, le passeport ordinaire ne peut pas être attribué à quelqu'un qui n'est pas comorien. Le passeport diplomatique, il y a des textes qui régissent justement la délivrance de ces passeports. Il y a des gens qui ne sont pas comoriens, qui sont titulaires de ces passeports. Donc, je ne sais pas de quelle catégorie appartient cette personne. Vous avez les consuls honoraires, qui ne sont pas des comoriens, mais qui sont titulaires de ces passeports diplomatiques. Il ne s'agit pas des Comores uniquement, mais il s'agit de tous les pays. Aujourd'hui, aux Comores, nous avons des consuls honoraires qui représentent d'autres pays et qui sont titulaires des passeports diplomatiques de ces pays-là. Vous avez une deuxième catégorie, c'est-à-dire ce sont des conseillers. Quelqu'un qui est nommé conseiller, il est nommé conseiller par exemple du chef de l'État, il est à La Réunion ou bien il est à l'île Maurice, donc à la demande du chef de l'État, ou il est conseiller de tel ministre à la demande de ce ministre, le ministère des Affaires étrangères, le service de la chancellerie peut lui délivrer un passeport conformément aux textes qui sont en vigueur. Et puis, le plus important, c'est que avec ce passeport diplomatique, contrairement au passeport ordinaire, ces mouvements sont bien contrôlés, parce qu'il ne peut pas prétendre être titulaire d'un passeport diplomatique et dire que bon, je me présente à l'ambassade des États-Unis parce que j'ai besoin d'un visa pour aller aux États-Unis ou bien à l'ambassade du Canada. Non, il a l'obligation de se référer soit au ministère des Affaires étrangères, soit à une des chancelleries des Comores, c'est-à-dire à notre ambassade ici, par exemple à Paris, ou bien à notre ambassade à Madagascar, s'il est dans cette région, pour que cette mission intervienne, pour qu'il puisse avoir le visa. Autrement dit, il est contrôlé, on sait que bon, là, aujourd'hui, il va dans telle région, il va dans telle... Sauf si, alors que bon, ce sont peu les pays qui dispensent de visa d'entrée dans leur espace. Donc, ces passeports, il faut dire à celui qui a posé la question que celui qui signe les passeports ou qui émet les passeports au ministère des Affaires étrangères, il n'est pas là pour faire la police et le gendarme, c'est pas son rôle. Mais lui, il reçoit un document en bonne et due forme qui émane d'un département, que ce soit le département des finances ou bien que ce soit qui émane par exemple du président de l'île autonome de Moali ou de Anjouan, qui dit que bon, telle personne est mon conseiller ou telle personne, il est mon chargé de mission. Donc, nous avons l'acte de nomination et nous avons la demande et on établit le passeport. Et puis, pour son information, les passeports diplomatiques sont gratuits. Et donc, ils ne peuvent pas porter de timbre. Merci.
Merci pour cette précision. Je pense que notre auditeur ou auditrice est satisfaite de ces éléments de réponse. Bien, on va passer à la dernière partie de notre émission, se fait la mine, si vous voulez bien. Et avant de passer aux perspectives, puisque dans ce livre, Les Comores en mouvement, publié aux éditions de la Lune, vous n'avez que faire l'historique social et politique du politique. En même temps, vous avez essayé de dégager un certain nombre de le monde, de visions, de choses, de hypothèses possibles pour permettre le développement politique et économique. Mais avant de passer à cette étape, vous avez été opposé au débarquement. Sur quoi est fondée cette opposition dans un temps où alors l'unité des Comores était appelée?
Oui, effectivement, parce que bon, il y a des certain nombre d'éléments qui m'ont interpellé à agir ainsi. D'abord, je crois que bon, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'aller conquérir Anjouan, ce n'est pas d'aller rattacher Anjouan à la Grande Comore, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les cœurs des Anjouanais, c'est-à-dire la fraternité. Donc, pour conquérir les cœurs, on n'a pas besoin d'utiliser des armes. Il faut négocier, il faut dialoguer, il faut poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous avez fait ça? Et où vous voulez aller? Et pourquoi vous avez agi ainsi? Donc c'est ce qui nous importe. Je me suis dit que bon, en cas d'intervention militaire, l'armée nationale de développement pourrait gagner la bataille. Mais là, c'est une guerre que nous engageons. Et que par rapport à cette guerre, il faudra attendre longtemps parce que on n'a pas gagné la guerre. C'est un peu comme l'histoire de Mayotte, quand les gens disent que bon, nous avons accédé à l'indépendance sans Mayotte parce que les Maorés étaient révoltés depuis que on a transféré la capitale de Dzaoudzi à la Grande Comore. On n'a pas cherché à dialoguer, à négocier, à penser les plaies des Maorés, mais on a agi brutalement. Alors que dans ces genres de questions, il ne faut pas agir brutalement. À cela s'ajoutent d'autres éléments qui m'ont toujours préoccupé et qui font l'objet de mes préoccupations aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un pays comme la Tanzanie qui a soutenu ce débarquement la Tanzanie qui traîne aujourd'hui avec des casseroles de questions de Zanzibar et de Pemba. C'est-à-dire, Zanzibar, il fait un temps, elle s'est révoltée, elle a dit elle veut se détacher de la Tanzanie. Voilà, de la Tanzanie continentale. Autrement dit, c'est un message que les Tanzaniens ont voulu adresser aux gens de Zanzibar, que si on n'a pas hésité à utiliser les armes par rapport à une question qui ne nous concerne pas directement, autrement dit les enjoinés, donc ne croyez pas qu'on va croiser les bras quand vous agissez ainsi demain. La question de Darfour ou bien la question de Casamance font l'objet de sérieux débats aujourd'hui, que ça soit en Afrique, aux Nations Unies et partout ailleurs. Donc, comment se fait que les Soudanais ont laissé leur casserole au Darfour et au sud du Soudan pour venir s'occuper de l'unité de l'intégrité territoriale des Comores? Les Sénégalais aussi avec la question de Casamance, mais
ils n'ont pas été,
mais la planification, ils ont été associés. Mais au-delà de tout ça, nous avons dit que bon, le conflit des Comores, c'est vrai, c'est un conflit, ça a duré. Il y a beaucoup de crises qui ont beaucoup duré, croyez-moi. Nous avons la question du Cachemire, on a la question de Palestine. On ne veut pas que ça dure, effectivement. On a besoin de trouver une solution. Nous ne sommes pas beaucoup plus équipés, mieux équipés que la Chine, la République populaire de Chine, avec 1 milliard d'habitants, avec tout ce qu'il a comme armement, avec tout son poids au niveau du Conseil de sécurité, il a le droit de veto. Mais il n'a pas agi avec la force. Il a prôné pour le dialogue par rapport à la question de Hong Kong, de Macao et à la question de Taïwan. Il faut suivre le modèle des sages. Il faut suivre les modèles des grands. D'autant plus que cette intervention, on n'a pas eu l'aval parce que le conflit n'est pas armé. On a décidé d'agir ainsi. Si c'était l'armée nationale de développement, on allait dire que bon, écoutez, l'armée est intervenue pour rétablir l'ordre en juin. Mais le fait qu'il y ait des parties de l'extérieur, là, c'est une intervention en bonne et due forme militaire. Alors qu'une intervention militaire dans un pays souverain a besoin d'un aval du Conseil de sécurité. On n'a pas eu cet aval. Et puis, nous avons toujours...
Affaire intercomorienne, on n'avait pas eu besoin de l'aval international pour établir l'ordre d'une partie territoire comorien.
Vous n'avez pas bien saisi.
Allez-y.
Moi, je vous ai dit que bon, si c'était l'armée nationale de développement qui est intervenue pour établir l'ordre, là, on aurait compris que bon, et c'est une affaire de rétablissement.
Ce n'était pas une stratégie d'arrêter.
Le fait qu'il y ait des forces étrangères qui sont intervenues, là, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous de définir les règles. Les règles sont déjà établies, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de la Ligue des États arabes, que ce soit au niveau des Nations Unies. Il faut l'aval du Conseil de sécurité. Je vous garantis que, bon, s'il y avait eu un bain de sang, si ces histoires-là étaient mal terminées, mais le président en exercice de l'OUA, qui n'avait pas l'aval de l'OUA, parce que l'OUA, en 1998, a décidé de confier ce dossier aux Sud-Africains, aux pays de la région, avec la coordination de la République d'Afrique du Sud. Il y a une décision des chefs d'État qui a été prise. Donc, aujourd'hui, le fait que le président tanzanien ait pris cette décision en dehors d'une décision de l'instance la plus suprême de l'Union africaine, en l'occurrence une décision des chefs d'État, le fait qu'il n'ait pas l'aval du Conseil de sécurité, il allait donner des explications. Heureusement que ça s'est bien passé. Mais au-delà de ça, quelle est la différence entre Mohamed Bakar et Robert Mugabe? Par rapport à l'organisation des élections et par rapport aux résultats proclamés par Mohamed Bakar. Et pourquoi aujourd'hui Kikwete, le même Kikwete qui a ordonné, qui a décrété, qui a mobilisé ses forces pour intervenir en juin, pourquoi il ne mobilise pas ces mêmes forces pour intervenir au Zimbabwe? C'est une politique de deux poids et deux mesures. Nous sommes un petit pays, mais nous avons quand même le droit de dire que tous les pays au niveau de l'Union africaine sont pareils, ils ont le même poids, ils ont les mêmes droits, comme ils ont les mêmes devoirs. Donc là, je crois qu'on s'est utiliser des Comores pour atteindre d'autres fins, comme je l'ai mentionné dans le livre avant.
Raison pour laquelle que vous prenez avec une attitude très très militante et engagée une moralisation de la politique, une éthique du politique.
Absolument, politique. Absolument. Moi, j'ai été révolté parce que j'ai vu des gens qui ont évolué ici en France avec la SEC. Et puis ils sont devenus des militants du Front démocratique. Et puis ensuite ils ont quitté le Front démocratique pour se positionner au niveau de l'UNDC. Et puis de l'UNDC ils sont entrés dans le RND. Et puis du RND ils sont devenus des militants de la CRC. Et puis de la CRC ils sont devenus des militants du parti Ridja de Metro Larif en l'espace de moins de 10 ans. Quand même, je trouve cela vraiment scandaleux. Je trouve que il faut moraliser les partis politiques.
Mais comment?
Je crois que aujourd'hui, les députés ont un rôle important à jouer là-dessus. Définir comment être militant dans un parti, et puis le rôle de ces partis politiques, parce que la plupart du temps, on n'arrive pas à distinguer entre un parti politique et une frange de la société civile.
Alors, en conclusion, Sef Elamine, vous dites que les Comores, c'est un petit pays avec autant de problèmes. Est-ce que, avec cette moralisation du politique, suffira à résoudre ce lot de problèmes dans
ce pays? Oui, justement, c'est là où on va répondre à votre première question quand vous avez voulu interférer. Il y a des forces occultes, il y a des puissances, il y a des choses qui nous dépassent, mais il y a des choses qui sont à la portée des leaders politiques comoriens. Donc je crois que si on moralise les pratiques de la politique, si on renonce à la politique politicienne, si aujourd'hui vous qui êtes chef d'un parti, vous voyez M. X qui vient se présenter alors que vous savez pertinemment qu'il a milité au sein de mon parti, il vient, il se présente, vous lui dites mais pourquoi vous avez quitté l'autre parti pour venir ici? Est-ce que c'est pas ça ce que vous allez faire demain? Donc on établit les règles. Je crois que là, on va rendre service à la population, on va rendre service à la politique comorienne. Là, on aura réglé une partie du problème. Et puis, l'autre partie qui concerne les forces étrangères ou les forces occultes, ensemble, avec les bonnes volontés de la communauté internationale, on parviendra. Mais le drame, c'est de nous laisser être manipulés par ces forces occultes.
Merci beaucoup, Sef Mohamed Elamine, d'avoir accepté à participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes diplomate et essayiste et vous venez de publier aux éditions de la Lune Les Comores en mouvement, qui est déjà en rupture des stocks, tellement le succès dont a bénéficié ce livre. Mais l'éditeur s'engage à faire un bon tirage et comme ça tout le monde en aura sans aucun doute.
Merci beaucoup, merci Dunia Web. Et merci aux éditeurs de Dunia Web partout où ils sont.
Et je vais rectifier une petite erreur qui a été donnée tout à l'heure par rapport au passeport de mon collègue qui vient de poser la question. Il nous dit que Noma c'est un passeport ordinaire que la personne a eu, c'est-à-dire il a eu un passeport ordinaire sans timbre.
Voilà. Ça c'est je crois que c'est une faute grave parce que l'importance de du timbre d'abord ça confirme aussi bien la souveraineté mais aussi au niveau de la comptabilité. Ça permet de ne pas laisser l'argent des contribuables s'évaporer. Donc c'est une faute grave.
Okay,
et puis s'il a des doutes par rapport à la citoyenneté de cette personne qui est titulaire du passeport ordinaire, il a absolument raison parce qu'un passeport ordinaire ne s'octroie pas à un étranger.
Je peux peut-être ajouter quelques mots en tant que citoyen ou citoyenne des Comores, selon la constitution, si ma mémoire est bonne, elle peut saisir la cour constitutionnelle.
Absolument, absolument.
Ok. Auditeur, auditrice de la radio, l'émission Les Livres des Hommes de Gamal est fini. Je remercie à notre invité qui s'appelle Sef Mohamed Elamine d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve un autre jour, Inch'Allah. watukufu wa he radio bandarika me mahadisi he manya si jamal hamish bamaji parao le livre des hommes katunga ndo ndo ngem najum titi ngir jernji haruma e bana majiatu yahu oskole marhaba.